Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, nous sommes le lundi 24 août 2026, il est 18h, c'est l'heure de votre grand journal de la rédaction. Dans les titres de ce journal, Washington s'apprête à ouvrir un nouveau front contre l'Iran, cette fois sur le terrain économique. Scott Bessent, secrétaire américain au Trésor, promet de dévoiler aujourd'hui ce qu'il présente comme les sanctions les plus sévères jamais imposées à un pays. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenu aujourd'hui une réunion d'évaluation de la sécurité au quartier général du commandement central de Tsahal sur les défis sécuritaires dans la région de la Judée-Samarie. En France, la campagne pour les élections présidentielles 2027 a connu de nouveaux rebondissements. Raphaël Glucksmann a annoncé sa candidature hier soir. Jean-Luc Mélenchon progresse alors que les universités d'été de LFI ont connu un franc succès ce week-end. Et puis enfin, en Belgique, à Bruxelles, plus précisément, deux nouvelles fusillades ont eu lieu dans la capitale au cours de la nuit, qui vient conclure un week-end très mouvementé qui avait commencé vendredi soir sur fond de trafic de drogue. Mais je le disais dans les titres, on va commencer ce journal avec l'entretien du 18h. La campagne pour les élections présidentielles 2027 a connu de nouveaux rebondissements, de nouvelles annonces ce week-end. Raphaël Glucksmann a annoncé sa candidature hier soir et Jean-Luc Mélenchon progresse alors que les universités d'été de LFI ont connu un franc succès ce week-end. On va en parler dans ce journal avec notre invité Raïm Musicante. Bonjour.
Bonjour Blaise.
Merci à vous d'être avec nous dans ce journal de la rédaction. Alors je le disais, on va revenir évidemment sur l'annonce de Raphaël Glucksmann, mais on va d'abord parler du grand tour de force de la part de la France Insoumise. C'était ce week-end les fameuses universités d'été de LFI où toutes les gros poissons du parti étaient présents. Alors Raïm Musicante, on a vu le mouvement LFI tous à l'unisson derrière son leader Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce tour de force, comme je l'ai appelé?
Mais écoutez, vous savez, Blaise, c'est que ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon a demandé à Jean-Luc Mélenchon d'être le candidat du parti de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, ces trois derniers jours, c'était ce qu'on appelle une démonstration de force qui a été réussie, parce que selon les organisateurs de LFI, il y avait plus de 10 000 personnes qui sont venues de toute la France. Et on ne peut pas dire qu'il lance sa campagne puisqu'il est depuis plusieurs mois en campagne électorale. Et je dirais que hier, il a marqué à la fois les gens qui étaient sur place et également les médias en disant « c'est moi le candidat unique de la vraie gauche ». Et donc, on peut dire que c'est un succès pour lui.
Alors, Jean-Luc Mélenchon a plutôt plafonné lors des deux dernières élections présidentielles. Il a fini troisième ou quatrième. Là, il y a une réelle possibilité qu'il aille au second tour, et notamment face à Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon président, c'est envisageable?
Alors écoutez, c'est pas complètement fou, parce que, comme vous savez, Blaise, depuis des mois et des mois, tous les sondages disent que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit Jordan Bardella, c'est lui ou c'est elle qui va gagner. Mais il peut y avoir une surprise, il peut y avoir une double surprise. Pourquoi? Parce que vous savez, vous êtes coutumier des sondages, et notamment en France, on a eu à plusieurs reprises des tas de candidats qui pensaient que ça y est, la porte de l'Élysée leur était grande ouverte, et qui ont été battus. Et puis, vous savez qu'il y a une menace judiciaire qui est sur la tête de Marine Le Pen, parce qu'elle a été condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires des députés européens. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que elle est un petit peu en sursis. Il doit y avoir, avant avril 2027, un jugement définitif de ce qu'il y a en France appelle la Cour de cassation. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que le premier tour de l'élection aura lieu le 17 avril ou le 18 avril, et imaginez que, par exemple, la décision, elle tombe le 19 avril. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, Marine Le Pen, elle ne pourrait plus se présenter, et la loi prévoit que Jordan Bardella, lui, il aurait jusqu'au 5 avril pour se présenter. Donc, vous faites un petit peu de mathématiques et vous dites que, bien sûr, c'est incertain. Alors, autour de Marine Le Pen, on dit, il n'y a pas de problème. elle pourra se présenter. Et pour compléter la réponse, Blaise, eh bien c'est vrai. C'est vrai que tous les sondages démontrent que Mélenchon avance. Aujourd'hui, selon un sondage qui est sorti par le sondage Harris, il est à 16% et il dépasse. Et il dépasse pour la première fois Édouard Philippe, qui est le candidat le mieux placé de ce qu'on appelle le bloc central.
Alors, on va de nouveau revenir sur l'annonce de la candidature de Raphaël Glucksmann. Mais pour terminer sur Jean-Luc Mélenchon, on sent quand même qu'il y a un certain désaccord au niveau de la gauche en France. On a la gauche dite républicaine qui ne veut pas s'allier à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise. Il y a les Verts aussi. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Ils sont pas trop certains de suivre Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que justement le fait que ces voix et ces discours de gauche soient éparpillés, eh bien, ça ne donne pas un certain avantage à Jean-Luc Mélenchon.
Oui, écoutez, tout à fait, parce que si c'était une chanson, Blaise, je vous dirais, c'est Je t'aime, moi non plus. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que la gauche dite républicaine fait semblant de dire, ah ben non, Mélenchon, non, non, on n'en veut pas. Mais, on se souvient qu'il y a eu en 2024 des accords entre la gauche dite républicaine, la gauche de Mélenchon, lorsqu'il y a eu des élections législatives, et même quelqu'un comme Gabriel Attal avait appelé à voter pour LFI au deuxième tour contre le Rassemblement national. Et puis, tout près de nous, il y a eu en mars dernier des élections pour élire les maires en France. Eh bien, dans des grandes villes comme Bordeaux, Marseille ou ailleurs, il y a eu des alliances. Il y a eu des alliances entre la gauche dite républicaine et la gauche de LFI. Et puis là, le dernier épisode, c'est que donc Glucksmann, qui hier a annoncé qu'il se présentait aux primaires, eh bien, il n'a pas obtenu du Parti socialiste le fait qu'il y aurait une petite ligne en disant jamais avec LFI. Donc, si vous voulez, on se dit que vraisemblablement, au deuxième tour, eh bien, sans le dire, eh bien, le Parti socialiste ou les candidats socialistes appelleront à voter pour Jean-Luc Mélenchon.
Alors, on y vient, c'était un secret de Polichinelle, hein. Hier ça a été confirmé, Raphaël Glucksmann a donc annoncé sur le plateau du 20h qu'il serait candidat à l'élection présidentielle 2027 avec son parti Place Publique. Alors, Raphaël Glucksmann est juif et pourtant il a plutôt des positions anti-israéliennes, Ray Musicant.
Oui, absolument. Vous savez, Raphaël Glucksmann s'inscrit dans ce que j'appellerais la gauche, qui a pris un certain tournant depuis le 7 octobre. Donc, je dirais qu'il n'y a pas énormément de différence entre les positions de LFI et celles de Glucksmann. En mai, c'était en mai 2024, il avait assisté à un grand meeting pour l'élection européenne qui avait lieu à Paris. C'était au Trocadéro. Le premier secrétaire, Olivier Faure, avait dénoncé le génocide israélien et je n'ai pas vu de démenti de Glucksmann. Donc Glucksmann, plus d'une fois ces dernières années, et encore il y a quelques jours, parlait comme ça du massacre, du fait qu'il faudrait condamner Israël pour ses crimes de guerre. Et puis hier, je ne sais pas si vous l'avez entendu, lors de la déclaration qu'il a faite à TF1 pour annoncer qu'il était candidat, très curieusement, il annonce qu'il va falloir que la France enlève les laisses de Poutine, de Trump et de Netanyahou. On se demande qu'est-ce que viennent faire ces trois hommes politiques dans une déclaration où il s'agit d'essayer de se présenter à la présidentielle. Mais en fait, vous avez compris qu'il s'agit, disons, de ramasser un électorat qui est très sensible à des thèses anti-israéliennes.
On va devoir conclure sur cette question, Chaim Musicante. Alors, elle est très large. Que vont faire les juifs de gauche en France?
Alors écoutez, la question est de savoir s'il y a encore des juifs de gauche. Parce ils ont été plus que déçus depuis très longtemps, que ce soit par François Mitterrand, par François Hollande, et puis depuis le 7 octobre, beaucoup de juifs de gauche qui votaient peut-être pour le Parti socialiste ont dit c'est impossible, sûrement pas pour LFI, car les positions anti-israéliennes qui ont été prises dès le 8 octobre font que très très rares, peut-être on peut citer quelques exceptions comme Jérôme Guedj, ben pratiquement il y a plus de juifs à gauche.
Et Jérôme Guedj qui entretient toujours un peu le flou hein, sur sa possible candidature malgré le fait que la date limite approche à grands pas. Rai Musicante, je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans le Grand Journal de Radio Judaïka. À bientôt.
Bonsoir.
Et dans le reste de l'actualité, maintenant, on repart évidemment sur la situation à l'international. Hein, alors petit souci, voilà, le Washington qui s'apprête à ouvrir un nouveau front contre l'Iran, cette fois sur le terrain économique. Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a promis de dévoiler ce lundi ce qu'il présente comme les sanctions les plus sévères jamais imposées à un pays. L'objectif est clair, couper les principales sources de revenus du régime iranien et isoler tous ceux qui continueraient à commercer avec lui. Ceux qui craignent le danger de défier Téhéran ne devrait pas sous-estimer le coût de défier Washington, a averti Scott Bessent. Le secteur pétrolier devrait être au cœur de cette offensive, mais les entreprises, les banques et les pays qui facilitent les transactions iraniennes pourraient également être visés. Les détails seront présentés à 14h à Washington, soit 20h à Bruxelles. Cette offensive intervient alors que le rial iranien poursuit sa chute sur le marché libre. Un dollar s'échange désormais autour de 2 millions de rials. Sur la chaîne CNBC jeudi dernier, Scott Bessent avait déjà déclaré « Nous allons faire s'effondrer ce régime iranien », ajoutant « Il est temps pour nos alliés et pour le reste du monde de prendre une décision et nous allons écraser l'économie de ce régime meurtrier ». Fin de citation. Donald Trump a lui écrit sur Truth Social « L'Iran est en plein effondrement ». Je cite « Ce bref message intervient alors que la monnaie iranienne a atteint donc ce nouveau plus bas historique et à la veille d'une annonce américaine concernant les nouvelles sanctions. La semaine dernière, Donald Trump s'était entretenu avec le chef de l'armée pakistanaise afin de tenter de relancer les négociations avec l'Iran, Téhéran parvenant toujours à restreindre le trafic dans le détroit d'Ormuz, ce qui fait grimper les coûts du transport maritime mondial. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenu aujourd'hui une réunion d'évaluation de la sécurité au quartier général du commandement central de Tsahal sur les défis sécuritaires dans la région de la Judée-Samarie. C'est ce qu'a indiqué son cabinet. Selon le bureau du Premier ministre, le ministre de la Défense Israël Katz, le chef d'état-major de Tsahal, le général de corps d'armée Eyal Zamir et le chef du Conseil de sécurité nationale étaient présents aux côtés du chef du commandement central de la direction du renseignement militaire de la direction des opérations de la division de Judée-Samarie ainsi que d'autres hauts responsables. Une réunion qui est intervenue dans un contexte de tension accrue en Judée-Samarie. Hier, un Israélien a été légèrement blessé lors d'une attaque à l'arme blanche près du village palestinien d'Al-Aouja dans la vallée du Jourdain. L'armée israélienne a ensuite arrêté un Palestinien de 16 ans soupçonné d'avoir perpétré cette attaque. La Judée-Samarie a également connu ces derniers mois une recrudescence des attaques de contre des Palestiniens et leurs biens, notamment un siège de maison palestinienne dans le village de Kousra. La montée de la violence aurait conduit les hauts responsables de l'armée israélienne à avertir les dirigeants politiques du pays que la région est au bord d'une escalade violente. Les soldats de la brigade des parachutistes ont détruit et condamné 13 km de tunnels dans la bande de Gaza au cours des 3 derniers mois. C'est ce qui a été annoncé par Tsahal aujourd'hui. Placé sous le commandement des 143e et 99e divisions, les troupes menaient des missions défensives et de démantèlement des infrastructures terroristes situées le long de la ligne jaune. Avec l'appui de soldats de l'unité d'élite Yahalom spécialisée dans le génie militaire, elles ont neutralisé plusieurs réseaux souterrains. L'opération a notamment permis de détruire une partie du tunnel dans lequel le corps du lieutenant Hadar Goldin avait été retenu. L'officier israélien avait été tué et enlevé par le Hamas le 1er août 2014 pendant l'opération Bordure Protectrice. Sa dépouille avait été ramenée en Israël en janvier 2026. Selon Tsahal, les soldats ont également démantelé de nombreux sites utilisés par les organisations terroristes et saisi des armes appartenant au Hamas. L'arsenal découvert comprenait notamment des roquettes anti-chars RPG, des obus de mortier, des grenades, des lance-missiles et des munitions. L'armée a affirmé que ces équipements devaient servir à mener des attaques contre les soldats israéliens et les civils. Le chef du Mossad, Roman Goffman, aurait rencontré le ministre syrien des Affaires étrangères après la frappe menée la semaine dernière par Israël en Syrie. C'est ce que révèle en effet le site d'information américain Axios, une rencontre qui a eu lieu hier, confirmée par les bureaux de la diplomatie syrienne. Les discussions ont porté sur l'élaboration de mécanismes concrets pour mettre fin aux attaques, arrestations et assassinats perpétrés par Israël, ainsi que sur la relance du dialogue en vue de parvenir à un accord de sécurité pouvant servir de base à un accord global ultérieur. Ce sont les mots du service des affaires étrangères de Damas. En revanche, un silence radio du côté des bureaux du Premier ministre israélien. Et puis la Syrie, elle, espère une reprise prochaine des négociations avec l'État hébreu autour d'un accord de sécurité. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie syrienne Assad al-Shabaini, qui a indiqué dans le même temps espérer que ces négociations aboutiront au retrait d'Israël du territoire syrien. Nous pensons qu'il devrait y avoir des contacts, surtout avec une partie qui menace constamment la sécurité de la Syrie, mais si ces contacts ne donnent rien, alors ils ne nous sont d'aucune utilité. C'est ce qu'a déclaré le ministre syrien des Affaires étrangères, qui ajoute n'avoir aucune confiance pour le moment envers les dirigeants de l'État d'Israël. De nouvelles fusillades ont eu lieu à Bruxelles cette nuit. Vers minuit, la police a découvert un homme dans la rue à Molenbeek. Il avait reçu une balle dans le bas de la jambe. Vers 3h du matin, une personne a été blessée lors d'une fusillade dans la commune de Saint-Gilles au cours du week-end. Deux autres fusillades s'étaient déjà produites à Saint-Gilles, tandis que le commissariat de police d'Anderlecht a été pris pour cible de tir, soit 5 incidents récents et au total de 62 fusillades à Bruxelles depuis le début de l'année. Jürgen de Lancher, chef de la zone de police Bruxelles Sud, constate que la situation se dégrade à nouveau dans la capitale. Il faut éloigner de la rue les individus exploités par des gangs pour tirer sur des bâtiments ou des personnes en échange de quelques centaines d'euros, a-t-il déclaré. Une personne a été blessée lors de chacun des deux nouveaux incidents survenus la nuit dernière dans les communes bruxelloises de Molenbeek et Saint-Gilles. Les victimes ont été transportées à l'hôpital. À la suite de la fusillade de Saint-Gilles, deux suspects ont été interpellés à proximité. La police ne peut pas encore dire si ces incidents sont liés à des violences dans le milieu de la drogue. L'enquête suit son cours, aucun détail supplémentaire ne peut être communiqué à ce stade, a déclaré la police. Plusieurs fusillades avaient déjà lieu à Bruxelles pendant le week-end, des coups de feu ont donc été tirés en direction d'un commissariat à Anderlecht. Selon les premiers éléments, deux suspects se seraient enfuis à bord d'une trottinette. Un homme a également été blessé et un impact de balle est entré dans la fenêtre d'une habitante à Saint-Gilles. Nous serons demain à 7h30 en ligne avec le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette, pour parler de cela. Toujours en Belgique, c'était la rentrée aujourd'hui en Fédération Wallonie-Bruxelles avec un changement majeur, l'arrivée du tronc commun en première secondaire. Après 7 semaines de pause estivale, les près de 900 000 élèves de Wallonie et de Bruxelles et leurs 120 000 enseignants ont retrouvé progressivement à partir d'aujourd'hui le chemin de l'école. Désormais, tous les élèves suivront le même parcours jusqu'à la 3e secondaire, quel que soit leur établissement ou leur réseau. Concrètement, les options disparaissent en première secondaire et la grille horaire devient identique pour tous, à l'exception des cours philosophique. Le programme renforce notamment le français, les mathématiques, les langues modernes, les sciences, mais aussi le numérique et les apprentissages techniques. Deux journées de découverte des métiers seront également organisées. L'objectif affiché est de retarder l'orientation vers les différentes filières et de réduire les inégalités entre les élèves. Cette rentrée des classes intervient dans un contexte social toujours marqué par la vive opposition des enseignants contre les différentes mesures d'économie adoptées en juin dernier par le gouvernement MR engagé. Les syndicats ont d'ailleurs émis un préavis d'action jusqu'à la fin du mois de septembre pour couvrir toutes les expressions de mécontentement. Contrairement à une tradition bien établie, la ministre de l'Éducation Valérie Glatini n'a pas prévu cette année de descendre sur le terrain à l'occasion de la rentrée, pas non plus de visite de terrain prévue pour la ministre-présidente Elisabeth De Grise. Ce retour à l'école est marqué par l'entrée en vigueur d'une batterie de mesures décidées par le gouvernement. Il y a notamment la décision d'augmenter la charge horaire des enseignants du secondaire supérieure de 10% sans augmentation de salaire. Valérie Glatini, elle, sera présente avec nous demain à 8h45 pour revenir sur cette rentrée. Et puis enfin, on termine avec cette nouvelle. Journaliste et amuseur public avec les grosses têtes, Philippe Bouvard est décédé aujourd'hui à 96 ans. Il a accompagné les Français pendant 6 décennies à la radio avant de prendre à plus de 90 ans une retraite à laquelle il s'est longtemps refusé. Il aura également accompagné de nombreux auditeurs belges. Pilier de RTL où il a travaillé à partir des années 60, son nom reste attaché à celui des grosses têtes, émission qu'il a lancée en 1977 en faisant une des plus écoutées de France. À la télévision, il a présenté de 1982 à 1987 le Petit Théâtre de Bouvard sur Antenne 2, une émission de sketch où apparaissaient de jeunes comédiens dont plusieurs connaîtront ensuite le succès.